Radio G 101.5 FM.
Nous sommes le lundi 15 février 2021, il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme ce soir, des histoires proches et lointaines, réelles ou fictives, de la danse, des fleurs, des super-héros, des balades en ville et d'autres trucs. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb. L'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comic. Du comics, pardon. C'est Seb au micro et nous sommes ensemble pour une heure et j'espère que nous passerons ensemble un bon moment. Commençons tout de suite avec un petit ouvrage humoristique bien local. Ce petit volume carré sent le soufre, il faut le dire. Issu de la collection Pataquès des éditions Delcourt, ce petit livre rouge... Non, pas celui auquel vous pensez. Je reprends. Ce petit livre rouge, répondant au doux nom évocateur de « L'avocat du diable », renferme des petites scénettes humoristiques. Au fil de ces petits gaufriers de quatre cases, nous découvrons un avocat fictif, dont la ressemblance avec un autre bien réel et sulfureux lui aussi, ne serait absolument pas fortuite. Et il va défendre l'indéfendable, sauver des affreux Jojo de la justice contre la veuve et l'orphelin. Bien entendu, s'il a choisi de plaider pour défendre la pire lie que le monde ait portée, c'est bien entendu pour la gloire et le pognon. Un individu pour qui l'expression « l'avocat du diable » ne serait pas une simple expression, mais un but ultime. Si chaque individu a forcément droit à un jugement équitable, ben les sales types présentés dans cet ouvrage auront droit pour seule défense à des blagues potaches et un argumentaire de très mauvaise foi. Comme beaucoup d'ouvrages de la collection, le but récréatif est ici atteint et se picorera plutôt que de se lire d'une traite. On appréciera le dessin de TM qui, malgré le format et la brièveté de chaque histoire, arrive à donner vie à ce petit personnage abject qui finit, comparativement parlant, à rendre les méchants qu'il défend moins odieux que lui-même. Et on devra au minimum saluer cette prouesse. Une rigolade rapide, simple, mais qui fait bien plaisir. Je redonne les références, il s'agit de L'avocat du diable, de TM, dans la collection Pataquès des éditions Delcourt. On continue avec un ouvrage historique. Vous savez que faire découvrir l'histoire aux enfants n'est pas toujours facile. Si les ouvrages pédagogiques sont plutôt précis, ils sont rarement fun à découvrir. Et s'il était possible d'allier plaisir de lecture, histoire et éducation ? Eh bien, c'est un peu ce que proposent les éditions Nobi Nobi avec la collection Les Grands Noms de l'Histoire en manga. Le tome que je vais vous présenter est celui consacré à Jeanne d'Arc. Mais la collection propose bien entendu d'autres noms comme Van Gogh, Napoléon, Mozart ou Marie-Antoinette. Enfin bref. Bon, est-ce que certains cancres parmi vous ont besoin d'un petit rappel historique sur Jeanne de Domrémy, aussi appelée la Pucelle d'Orléans ? Ok, bon, bah baissez les mains, je vais faire bref. En pleine guerre de 100 ans qui voit s'affronter Français et Anglais, une jeune paysanne de 13 ans va entendre des voix.
Jeanne, t'es où, Jeanne ? On pourra avoir des cafés, Jeanne.
Non, pas celle-là. Ces voix, qu'elle va attribuer à une origine divine, lui ordonnent d'aller prêter main forte au futur roi Charles VII, afin de reconquérir la couronne du royaume de France et renvoyer les Anglais sur leur petit bout d'île. Un pari pas forcément gagné d'avance quand on est une jeune fille paysanne peu éduquée qui ne sait pas monter à cheval. Contre toute attente, le futur souverain lui prête une oreille attentive et Jeanne pourra accomplir un destin qui la fera rentrer dans l'histoire avec un grand H. Avec un seul ouvrage par grand nom, le but n'est pas ici d'être exhaustif, mais bien de faire une présentation aussi fidèle que possible des éléments importants de la vie de chacun des protagonistes. Si l'histoire n'est pas toujours facile à condenser en un tome, le lecteur pourra compter sur un livret pédagogique qui termine l'ouvrage. Ici, une frise chronologique ainsi qu'une grande carte permettent de restituer les événements et les faits en les resituant, ainsi que de placer géographiquement le parcours à travers les lieux vus dans l'album. Ce livret permet également de prolonger et approfondir la biographie qui vient d'être lue. En effet, à travers ces quelques pages seront détaillés les événements les plus importants, ainsi que l'entourage et les figures importantes de ce contexte historique. Graphiquement, c'est aussi plutôt agréable. Si on peut regretter qu'il n'y ait pas plus de décors pour contextualiser l'histoire, se concentrer sur les personnages permet quand même de ne pas alourdir la lecture pour s'imprégner plus facilement des faits historiques. Pour conclure, si ces collections ne remplacent pas un vrai cours d'histoire, il sera tout de même une bonne première approche pour tout lecteur un peu curieux. La collection ferait certainement un bon support pédagogique qui aurait toute sa place dans un cursus scolaire. Je redonne les références, il s'agit de la collection Les grands noms de l'histoire en manga et c'est publié aux éditions Nobi Nobi. Je vous propose de faire une pause musicale avec Omido et la chanson LSD.
A difference, a slave to the distance you keep, and ever since you're on my wish list, I keep on falling for your outlet. Oh no, tell me is it right staying by your side while the devil's on your mind? Oh no, no, you need me, that's a lie, broken over time, and so you're breaking mine. Oh no, no, oh, I can't take it anymore, anything that you adore. Keep on begging me for more, more. I don't want your love, sex, drama. Love, sex, drama. Let's not love. Love, sex, love, sex and drama. To myself now, I should listen to my head now. Getting high on your love now, hoping I will never come down. Oh no, thinking that I found somebody to call my darling, not feel like falling. No, trying to reflect the emotions, drowning oceans deep down in my soul. Oh, I can't take it anymore. Anything that you would do. Keep on begging me for more, more. I don't want your love, sex, drama. Love, sex, drama. Let's not love. I can't take it anymore. Anything that you would do. Keep on begging me for more. I don't want your love.
Radio G 101.5 FM.
êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'était Omido avec LSD. Au fil des lectures, on remarque parfois des albums avec des similitudes. Bon, ok, hein, parfois ce sont de simples plagiats ou des inspirations très 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 fortes tant que la grande divinité du droit d'auteur ne leur tombe pas dessus. Mais parfois, les œuvres sont à la fois si semblables et si différentes que cela ne peut être que de la coïncidence. Tout comme les deux ouvrages que je vais vous présenter dans quelques instants. Deux ouvrages qui parlent de danse, de fleurs et de quelque chose d'infiniment plus subtil et délicat que l'amour. Ce premier ouvrage, c'est « À nos fleurs éternelles » de Narumi Shigematsu aux éditions Akata. L'histoire se situe au XIVe siècle au Japon, à l'époque Muromachi. Ce récit historique, romancé, raconte la vie d'Oniyasha, un jeune garçon qui danse une danse traditionnelle japonaise, ça fait une petite redite. Cette danse s'appelle le Sarugaku. Grâce à cette danse, il va un soir rencontrer un homme qui lui portera beaucoup d'intérêt. Rapidement, il va découvrir que ce n'est pas n'importe quel homme et qu'il vient en fait de s'attirer les faveurs du shogun. Cette nouvelle relation permet ainsi à sa famille d'améliorer son quotidien et de sédentariser la petite troupe itinérante, pérennisant les représentations parfois sporadiques du Sakuragu. Du Sarugaku. Excusez-moi, encore une fois, j'ai beaucoup de mal avec les noms étrangers. Mais je fais des efforts. Hein. Bref, on continue. Le jeune garçon n'aura alors qu'une envie, revoir la beauté que sa danse inspire dans le regard du shogun. Une fois à la cour du shogun, ce jeune homme de basse extraction va s'attirer la jalousie et la cruauté des autres enfants, eux issus de familles plus nobles. Ce jeune parvenu ne saura être là pour autre chose que pour l'amusement du dirigeant. Mais les motivations du shogun sont aussi obscures qu'incompréhensibles pour le commun du mortel. Et au lieu de demander au jeune homme de danser pour lui, il va commencer à l'instruire, à le cultiver, exacerbant le comportement déjà agressif des autres enfants de la cour pour le plus grand malheur de Niyasha. L'histoire dresse alors un parallèle évident entre ce jeune shogun, riche et bien éduqué, mais ayant complètement manqué de l'amour et la tendresse d'un père et une mère. A contrario de Niyasha, complètement démuni, mais aimé par toute sa famille. La rencontre des deux hommes permettra cependant de faire naître quelque chose qui appartiendra à la culture du Japon. Si le dessin de type shoujo pourrait dérouter certains lecteurs, l'ouvrage est pourtant graphiquement très agréable. Le dessin y est très doux, presque éthéré. Les personnages sont plutôt longilignes et fins, comme fréquemment dans les shoujo, mais cela renforce le côté très léger et fluide de la danse. À travers les deux tomes de ce manga, nous suivons donc l'adolescence et l'évolution de l'art, et l'évolution de l'art, d'une seule phrase, de celui que l'on nommera par la suite Zeami, le créateur du théâtre No. Si je peux me permettre, c'est un peu l'équivalent japonais de notre Molière. Ce manga est encore un moyen de découvrir un pan historique, romancé certes, mais de manière ludique. Pour ma part, apprendre en s'amusant reste la meilleure manière de retenir et de s'intéresser à beaucoup de sujets, et ici, c'est encore une fois une belle réussite. Je redonne les références, il s'agit de « À nos fleurs éternelles » de Narumi Shigematsu, c'est publié aux éditions Akata. Ce deuxième ouvrage s'appelle « Le jardin », il a été écrit et dessiné par Gaël Génillet et c'est publié aux éditions Delcourt. Saviez-vous qu'au cœur de Paris se cachait un jardin ? Un jardin où s'épanouissent de belles et enivrantes fleurs. Des fleurs que contemplent seulement les connaisseurs habitués du lieu. Muguet, marguerite, hyacinthe et autres raretés se partagent la vedette. Au milieu de ces stars se développe petit à petit un bourgeon sous le regard attentif d'un admirateur délicat. Mais soudain, ce charmant jardin se retrouve sous les projecteurs et se retrouve piétiné par tous ces nouveaux venus découvrir les splendides fleurs qui s'y trouvent et surtout ce petit bourgeon devenu une bien curieuse plante. Ce jardin est en fait un cabaret, les fleurs en sont ses danseuses. Le petit bourgeon est le fils de la patronne, un jeune garçon ayant toujours vécu au milieu de ces belles femmes qui s'effeuillent. Un garçon n'ayant jamais eu à se poser la question de ses propres amours, de son propre genre. Sous le feu des projecteurs, ce qui était alors tout à fait naturel pour lui prend un autre sens dans le regard des autres. Un regard tenteur et perturbant pour ce jeune homme en pleine fleur de l'âge. Ici, nous avons un ouvrage très surprenant, que ce soit par sa thématique qui ne nous emmène jamais là où l'on pense, mais également par sa construction. Très fluide, l'album se lit facilement et nous procure un sentiment de bien-être très agréable. Si le sujet pourrait provoquer des réactions très virulentes, l'autrice les aborde avec une douceur, une tendresse et une délicatesse rares. Graphiquement, l'album est somptueux, le trait est moderne, mais avec ce petit quelque chose en plus qui fascine et captive. Mention spéciale aux différentes tenues qui personnalisent les personnages au point d'accentuer les confusions des genres. Quoi que l'on en pense, les personnages sont très attachants et cachent presque tous des petites fêlures qui les rendent encore plus vivants, sans pour autant avoir besoin de s'apitoyer sur leur sort. Comme l'un des personnages, j'ai ressenti le désir provoqué par cette sensualité si subtile de Rose. Un désir simple et honnête, inspiré par quelque chose de tendre et beau. Que dire de plus à part que cet album hors norme devrait facilement vous séduire. Un album vraiment très agréable, une très belle surprise, que je relirai avec un grand plaisir. Je redonne les différentes références. Il s'agit du Jardin, de Gaël Guenillet, aux éditions Delcourt. Alors c'est peut-être Genillet, je ne sais pas, mais encore une fois, je m'en excuse. Allez, vous avez été nombreux à me signaler avoir apprécié lors de la dernière émission la chronique de Garance. J'ai voulu réitérer ce lundi, mais hélas, ma morale et surtout le cadre légal ne me permettent pas d'exploiter mes enfants plus de 45 heures par semaine. Alors j'ai dû trouver une autre solution. Je me suis donc permis, tranquillement, de séquestrer Anne-Lie dans le studio, n'acceptant de la libérer que si elle réalisait, de son plein gré, hein, je précise, une chronique pour l'émission. Ce qu'elle accepta avec un empressement non dissimulé. Voici donc sa production.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir Seb et merci à toi de m'offrir un espace pour chroniquer une BD que j'ai lue il y a peu. Est-ce que vous ne vous demandez jamais à quoi ressemblera cet espace, ce lieu, là où je suis maintenant, dans des centaines, voire des milliers d'années, dans un monde qui aurait été abandonné par les humains ? Alors personnellement, ça m'arrive régulièrement. Et c'est un peu ce que nous propose Jérôme Dubois dans Cité Ruine, une bande dessinée éditée par les éditions Matière. Pour comprendre Cité Ruine, il faut savoir que Jérôme Dubois a publié une autre bande dessinée, Cité Ville, celle-ci publiée par les éditions Cornelius. Cité Ville est décrit comme une charmante agglomération aux mille activités. Grâce à son réseau de transport qui vous dépose directement en vacances ou grâce au Buy More, son supermarché qui vous permet d'acheter des objets à prix approximatif, Cité-Ville offre un ensemble d'infrastructures de premier choix. Pour les parents insatisfaits, le pôle enfant simplifiera le quotidien en proposant des offres de moutards adaptées à leurs besoins. Quant aux seniors, ils couleront une fin de vie heureuse à proximité des nombreux distributeurs de billets installés au sein de la maison de retrait. Vous l'avez compris, cité-ville, cité-ruine, on est dans une ambiance de dystopie. Un espace urbain imaginaire, absurde et cyniquement drôle que Jérôme Dubois a imaginé pendant 5 ans. Cité-ruine, c'est l'univers parallèle ou le monde qui advient après cité-ville. On retrouve les mêmes espaces, les mêmes 9 lieux emblématiques. Domaine Sérénité, Pôle Enfant, le supermarché Buy More, la maison de retrait par exemple. Et c'est un récit construit en miroir, qui reprend toutes les vignettes, la construction de Cité-Ville, mais sans qu'aucun humain ou personnage n'ait survécu ou ne soit représenté. Cette ville est à l'abandon et on s'y promène dans Cité-Ruine. Ce doit d'ailleurs être une expérience assez intéressante de lire les deux ouvrages en simultané. Alors formellement, dans Cité-Ruine, le dessin de Jérôme Dubois reste très précis. Tout est tracé à la règle, par exemple, tous les traits. Et quelque part assez minimal. Là où Cité-Ville était ancrée en bleu nuit, Cité-Ruine nous propose un monde en noir et blanc, avec des trames pour quelques nuances de gris. Et nous plonge donc dans un univers très contrasté. J'ai fait l'expérience de découvrir Cité-Ruine sans avoir lu auparavant Cité-Ville. Donc sans connaître l'autre pendant de l'histoire, celle avec les personnages, où l'humour et l'absurde ont une place importante. On est ici quelque part entre l'avant et l'après, les seuls mots qu'on trouve dans cet ouvrage, les titres des chapitres qui ont été conservés et nous permettent d'imaginer ce qui a pris place en ces lieux, la fonction, les utilités de ces espaces. Si vous en doutiez, je peux vous confirmer que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir lu Cité-Ville pour apprécier ce voyage en cité-ruine. À parcourir cité-ruine, on prend plaisir à observer, à bien regarder le dessin, chaque détail, alors que littéralement, il ne se passe rien. Et bien que ces paysages ne soient pas spectaculaires, on est emmené dans quelque chose. On peut imaginer les scènes qui ont pris place dans ce décor, dans l'autre ouvrage miroir. Et ce sont finalement les lieux qui deviennent les personnages, les héros. La lumière aussi prend une place de personnage. On voit même chaque espace développer une sorte de personnalité. Ce que j'ai aimé aussi avec Cité-Ruine, c'est qu'on peut y trouver une nouvelle façon de découvrir, de parcourir la bande dessinée et le dessin en général. On peut se concentrer sur le cadrage, le dessin, les cases, l'espace de la page. Car oui, tout ce qui est resté de Cité-Ville, ce sont les lieux et la façon dont on les observe. J'avais entendu d'ailleurs Jérôme Dubois en interview qui expliquait qu'il avait parfois dû imaginer et eu un peu de mal à projeter ce qui était derrière les personnages de Cité-Ville dans Cité-Ruine. Alors, j'ai lu Cité-Ruine avec grand plaisir et je vois cet ouvrage un peu comme un objet rédactionnel non identifié, aussi un beau pari de sortie. Et je trouve ça aussi assez génial d'avoir un éditeur qui a fait confiance à un tel projet, à un tel principe. D'ailleurs, pour l'objet, on tient en main une belle édition, avec une reliure cousue et un papier très agréable au toucher, un peu crème, assez épais. Et franchement, c'est ça qu'on veut, entre nos mains et sous nos yeux. Alors pour résumer, c'est un roman graphique très contemplatif, mais pas ennuyeux. Honnêtement, j'avais un peu peur en l'ouvrant, quand on parle du principe, on a repris toutes les scènes, sans aucun personnage. J'avais peur que ce soit aride ou austère. Mais finalement, ça m'a donné envie d'ouvrir à nouveau cette bande dessinée et de retourner me promener dans Cité-Ruine. Et si c'est trop silencieux pour vous, vous pourrez toujours imaginer votre propre histoire, car à vrai dire, c'est vraiment ce qui se passe, silencieusement, à la lecture. Je redonne les références. Cité-Ruine, de Jérôme Dubois, publié aux éditions Matière. Petite info locale, le livre est disponible à Angers, à la librairie Myriagone, ou en commande chez votre libraire préféré pour 19 euros.
Merci Annie pour cette chronique. Tu peux donc maintenant rentrer chez toi. Attends, ne te presse pas, je vais peut-être avoir encore besoin de toi. Non, c'est pas la peine de taper à la porte, elle est insonorisée. Allez, je vous propose qu'on se refasse une nouvelle pause musicale avec The Chemical Brothers en duo avec Aurora et la chanson Eve of Destruction.
The Eve of Destruction. The Eve of Destruction. The Eve of Destruction. The Eve of Destruction. The Eve of Destruction. The Eve of Destruction. We'll be right back.
そこさ今人はアダムとすぐディナー白い衣装黒は未来タクマイン意味ないことはない何も知らず踊りたい気づく胸そばイテロはなしとめたジートはいないケープダンス
The Chemical Brothers en duo avec Aurora, il s'agissait d'Eve of Destruction sur le 101.5 de Radio G. Vous écoutez toujours la case de Seb et cette chanson, The Chemical Brothers, va nous permettre d'enchaîner assez simplement sur l'ouvrage qui suit. Il s'agit de la science-fiction, l'histoire de la science-fiction en bande dessinée aux éditions Les Humanoïdes Associés. Sur un texte de Xavier Dolo et dessiné et mis en couleur par Djibril Morissette, fan. Qui ne connaît pas la science-fiction ? Levez la main. Ouais, bien sûr, il y en a encore pas mal. Faut savoir que la science-fiction, c'est un genre qui permet de mettre en avant les avancées technologiques au service de la fiction. Le titre est plutôt parlant. Pour ceux qui ne connaissent pas, des œuvres comme 2001, l'Odyssée de l'espace sont des œuvres de science-fiction. Au même titre que pendant une période, on pouvait presque penser que les œuvres de Jules Verne étaient de la science-fiction, puisqu'il parlait d'avancées technologiques dans des histoires de fiction. L'ouvrage dont on va parler, au long de ces 216 pages, va présenter l'histoire complète de la science-fiction, de ses balbutiements, de ses pères fondateurs, de son évolution, de la création de son nom, tout en nous présentant les différents éléments qui vont pouvoir devenir des éléments constituant la légende de la science-fiction. On va reprendre vraiment toutes les bases historiques et développer petit à petit, à travers les différents auteurs, l'évolution de ce média, de ce genre majeur, qui va pourtant, pendant très longtemps, être sous-considéré, puisque pas réaliste. Et l'ouvrage est vraiment bien pensé, puisqu'on a une première partie qui nous parle de l'histoire complète, en fait, de la science-fiction, des différentes évolutions qui vont permettre d'amener le genre à se faire un nom. Et puis après, on va commencer à détailler chaque auteur, chaque personne, chaque personnage qui va pouvoir poser une pierre sur l'édifice de ce genre si aimé en fait par beaucoup de gens. Et à chaque fois, on va avoir des conversations, des discussions où les personnages vont pouvoir échanger, parfois entre auteurs, parfois avec le lecteur, parfois même imaginer certains dialogues qu'ils auraient pu avoir à leur époque. Et puis on va développer quels sont les événements qui ont permis à ces auteurs de poser des pierres de ce genre science-fictionnel. Qu'est-ce qui leur a permis en fait d'évoluer et de faire évoluer ce genre de ses balbutiements à sa presque finalité, même si il n'y a certainement pas de finalité, puisque c'est un genre qui va continuer au fur et à mesure d'évoluer, même de nos jours. Il faut savoir que l'ouvrage présente également des passages, des compléments. On va nous suggérer des ouvrages pour pouvoir approfondir les thématiques développées par tel ou tel auteur, mais également développer les thématiques de la science-fiction en elle-même. Et c'est ces compléments-là, en fait, qui montrent que la science-fiction, c'est un genre qui se renouvelle beaucoup. On a des auteurs qui vont avoir impacté énormément les générations futures et qui, grâce aux ouvrages qui sont présentés, qui sont suggérés par les auteurs de l'histoire de la science-fiction en bande dessinée, on va pouvoir compléter, voir quel a été l'impact justement de ces auteurs à travers les âges et sur des générations et sur des histoires beaucoup plus proches de nous. Graphiquement, c'est vraiment très agréable. On a un côté, ça fait pas BD documentaire, des fois c'est un petit peu terne, mais là on a vraiment quelque chose de très travaillé et on a quelque chose qui va s'inspirer un petit peu du comics. J'ai l'impression d'avoir ce trait là un petit peu anguleux, alors pas le côté super héroïque bien sûr, mais vraiment quelque chose d'hyper intéressant qui va nous emporter, qui nous permet de découvrir cette histoire. Alors, je répète un peu la même chose en fait en boucle depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est vraiment les éléments constructeurs du genre qui sont présentés et on a tout un découlement, on a une personnification des personnages, on a quand on nous parle de Wells, on nous présente l'homme invisible, mais la construction et toutes les choses qui vont pouvoir aider à faire de ces romans des romans qui sont fondateurs, que ce soit le voyage dans le temps, que ce soit la création en fait de personnages comment dire, un peu mutant, avec l'île Docteur Moreau par exemple, et c'est des choses qui sont hyper intéressantes, et ces biais, ces ponts que fait l'ouvrage à chaque fois avec des œuvres, que ce soit des romans, que ce soit des séries, que ce soit des films, ça rend ce côté historique très vivant et pas rébarbatif, et c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ces différents points de vue. C'est très détaillé, c'est vraiment vraiment bien construit, bien documenté. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'impasse ou d'impair. On a même des auteurs que vous connaissez sans doute pas, qui dans lesquels on va nous parler en fait de cet impact, de ce talent, de ce qui fait qu'ils ont été importants dans la création et dans l'évolution du genre science-fiction. Il y a bien sûr les gens très très connus, on parlait de Wells tout à l'heure, mais que ce soit Wells, Jules Verne ou Edgar Allan Poe, on va parler de Ross Niené, on va parler de Mary Shelley. Il y a vraiment tous les auteurs fondateurs et évolutifs du genre qui sont présents. On nous parle des médias qui vont avoir permis à ce genre de passer d'un média de niche à un média majeur, en passant bien entendu par les pulps, par les journaux qui étaient imprimés sur des papiers de mauvaise qualité et qui pourtant ont impacté de nombreux lecteurs, dont des gens qui vont avoir un impact très très fort, que ce soit je sais pas, je prends un exemple en Angleterre, aux États-Unis, pardon, il y avait Lovecraft, il y a eu Edgar Rice Burroughs. C'est des auteurs qui ont marqué le genre science-fictionnel, même si on les identifie pas comme de la science-fiction. Edgar Rice Burroughs, il y a eu Tarzan. Tarzan, c'est pas vraiment de la science-fiction, mais il y a aussi John Carter. John Carter qui a été un immense succès et qui a défini un petit peu le côté space opéra. Qui reste de la science-fiction, mais c'est un sous-genre de science-fiction. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des sous-genres, on peut considérer que ça devient un genre majeur, enfin, à mon sens. Et du coup, c'est vraiment très intéressant. Alors que vous aimiez la science-fiction de base, ça vous permet de compléter votre savoir, de découvrir des auteurs que vous n'auriez pas lus et qui pourtant sont importants dans la découverte du genre science-fictionnel, ou même si vous n'aimez pas, si vous n'avez jamais lu de science-fiction, ça peut vous permettre justement de comprendre quel est ce genre, quels sont ses tenants et aboutissants, pourquoi c'est intéressant, et puis d'avoir des pieds, des points d'entrée dans le genre science-fictionnel de manière assez efficace. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir un ouvrage comme ça. Je vous redonne les différentes références. C'est l'histoire de la science-fiction. C'est un texte de Xavier Dolot, des dessins et couleurs de Djibril Morissette Fan. Et c'est je crois que c'est un partenariat des éditions Critiques et Les Humanités Associées. Et c'est vraiment un très beau bouquin. Je vais pas parler de la fabrication parce que moi j'ai lu que la version numérique, mais je pense que je vais m'empresser de l'acquérir pour aller le mettre dans ma bibliothèque pour pouvoir avoir du référencement. Et je pense que ça peut être intéressant de l'emprunter même dans vos bibliothèques hein, si vous arrivez à mettre la main dessus. Je pense que ça doit être, ce sera une bonne expérience pour tout lecteur. Je vous propose de refaire une pause musicale avec Sophie Tucker et Drinky.
Com Deus me levanto, comigo eu falo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tão com Deus me grita, com Deus me levanto, comigo eu falo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto.
Radio G 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'était Sophie Tucker et Drinky. Je vous avais dit qu'on parlerait de médias parallèles, de choses qui étaient des adaptations de romans ou d'histoires. Eh bien, cette histoire de la BD, de la science-fiction en bande dessinée, elle m'a fait me rendre compte qu'il y avait deux ouvrages importants qu'il y avait au moins deux ouvrages importants que j'aurais pu mentionner à cette suite et qui sont des ouvrages de science-fiction ou au moins des ouvrages constructeurs de la science-fiction. Le premier, c'est Les Voyages de Gulliver. C'est un roman de Jonathan Swift. Alors, si tout le monde connaît Gulliver avec Lilliput, où ce marin se retrouve dans un univers où il est très grand, il y a deux voyages qui sont moins connus. Ce sont les seconds voyages de Gulliver, où il va découvrir d'autres mondes qui vont avoir inspiré des films qu'on connaît et dont je vais parler dans quelques instants. L'ouvrage en question s'appelle sobrement « Les voyages de Gulliver de Laputa au Japon ». Il s'agit des voyages de Gulliver de Laputa au Japon, librement adapté du roman de Jonathan Swift par Gallic et chez Goyen. C'est dans la collection Noctambule des éditions Soleil. Pour résumer très simplement, en fait, l'histoire, c'est celle de ce voyageur qui, comme Ulysse, va un petit peu se perdre en mer dans un voyage qui normalement aurait dû être tout à fait simple, et il va découvrir des mondes complètement inconnus qui vont lui permettre de vraiment d'être très 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 dépaysé. Perdu en mer, le brave Gulliver va trouver refuge sur une île, une toute petite île sur lequel il va tenter de survivre, et un jour il se retrouve nez à nez avec un immense château semblant surgi du ciel, un château volant, et ce château va lui descendre quelques petites chaînes pour pouvoir le faire monter dans ce château. Dans ce château, il va découvrir un monde très différent, un monde où les paroles sont, où le langage est différent, un monde où les personnes qui le peuplent semblent être complètement perdues mentalement. Dans un instant, ils vous parlent, et l'instant d'après, ils sont le regard perdu dans le vide, si bien qu'il y a des petits personnages qui sont à côté d'eux pour leur mettre des coups et les rappeler un petit peu à la réalité. Très vite, Gulliver va se rendre compte que ce pays est peuplé de gens qui sont très savants et qui ne font que de la recherche, qui sont constamment en train d'essayer de faire des expériences scientifiques, qu'elles soient complètement absurdes ou complètement intéressantes. Il n'y a peu d'intérêt tant que ce n'est pas une expérience. Et Gulliver va découvrir en fait ce monde complètement, complètement différent, avec un peuple qui n'a pas du tout les mêmes préoccupations que lui. Des préoccupations qui vont causer certain nombre de problèmes. Des préoccupations qui vont lui faire très vite s'instruire, très vite arriver à comprendre cette langue et aussi à faire comprendre la sienne, puisque ce sont des gens qui vont quand même essayer d'étudier. Et à un moment, il se dit bon, bah, faut que je m'en aille, faut vraiment que j'essaie de retourner chez moi, de retourner trouver ma famille, et comme Ulysse, il va reprendre les flots et il va atterrir dans un autre pays, un autre monde, un endroit où on semble un pays où on va mettre en place des lois et des choses qui sont complètement absurdes. Par exemple, on va faire travailler des aveugles à la préparation de couleurs pour des artistes peintres, où on va essayer de convaincre des cochons que s'ils peuvent travailler à la place des agriculteurs, ce serait quand même super. Et du coup, il n'y a rien qui marche, ce qui fait que ce pays court à la ruine malgré de très bonnes idées à la base. Ils font beaucoup de recherches, c'est un petit peu comme Laputa, mais c'est pas du tout les mêmes types de recherches. Et à chaque fois, en fait, Gulliver va passer de pays en pays et il va se rendre compte de l'absurdité des choses, de l'absurdité de certains gouvernements. Et c'est un petit peu la critique que faisait Swift à l'époque, c'est de pointer du doigt les éléments qui font que qu'un gouvernement doit arriver à gérer de manière quotidienne avec son peuple. C'est pas le peuple qui doit gérer, mais c'est. Moi, je m'enflamme un petit peu dans la thématique. Mais ce sont des aventures qui sont absolument géniales, qui sont absolument dépaysantes. En plus, l'ouvrage est graphiquement très très joli. C'est un dessin qui, selon moi, est très très moderne. Il y a beaucoup d'angles, il y a beaucoup de. Je sais pas, de fantaisie dans les personnages, c'est très détaillé, c'est très très joli. Les couleurs sont un petit peu sombres, il y a pas de flashy. Hein. Si vous attendez à du flashy, vous en trouverez pas. Mais c'est assez lumineux. Il y a beaucoup de tonalités marron, bleu qui vont aider à comprendre et à s'immerger, on va dire, dans cette fantaisie. Il y a de très très belles pages. C'est vraiment un bel ouvrage. C'est vraiment très très pratique. Il y a des petites trouvailles graphiques. Notamment à Laputa, quand Gulliver se rend compte qu'il ne comprend pas en fait le langage, la typographie des bulles des Lapuciens, je ne sais pas si on dit Lapuciens d'ailleurs, est très particulière. Alors au début, ça demande une petite gymnastique visuelle, puisque de loin on pourrait vraiment penser à un alphabet différent, alors qu'en fait c'est très facilement compréhensible, mais ça nous montre vraiment un autre langage, et c'est hyper agréable, c'est hyper intéressant à lire, et vraiment faites l'effort, faites le plaisir, c'est vraiment super beau. Il y a de très grandes trouvailles, il y a des essais d'architecture visuelle dans certaines des contrées que va rencontrer Gulliver. Il y a des fantaisies, on va dire, architecturales qui sont assez particulières, et les auteurs arrivent bien à retransmettre ça et à retranscrire un petit peu la folie de ces différents gouvernements, de ces différents pays traversés par Gulliver, et c'est un vrai plaisir, c'est un vrai moment de bonheur à regarder. Bref, je vous redonne les références. Ça s'appelle Les Voyages de Gulliver, de Laputa au Japon. C'est librement adapté du roman de Jonathan Swift, et ça a été adapté par Gallic et chez Goyen. C'est aux éditions Soleil, dans la collection Noctambule. Et quand on parle d'adaptation de romans, qu'on est à la radio, il est quand même assez rare de ne pas passer justement à côté d'une adaptation qui a défrayé la chronique il y a de ça un bon moment. Il s'agit de La Guerre des Mondes. Cette Guerre des Mondes, qui a été écrite par H.G. Wells, est un roman de science-fiction, vous vous en doutez un petit peu avec la thématique qu'on a eue avant, et c'est une œuvre qui va mettre en avant une humanité confrontée à une invasion extraterrestre. Il me semble qu'en plus que c'est le premier roman qui imagine une invasion extraterrestre sur notre planète Terre. Alors pourquoi forcément en radio c'est important de connaître cette œuvre, puisque cette œuvre écrite par H.G. Wells a été adaptée en feuilleton radiophonique par Orson Welles, un feuilleton radiophonique ayant créé un grand mouvement de panique au Royaume-Uni lors de sa diffusion. Je vous en fais d'ailleurs écouter un extrait dans sa version française.
Incroyable, extraordinaire, mesdames, messieurs, ce qui est en train de se passer ici. Une véritable première, mais attention, on dirait que quelqu'un est en train de sortir de l'objet. Quelqu'un, ou plutôt quelque chose. Deux disques lumineux apparaissent des profondeurs du cylindre. Cela ressemble à des yeux, peut-être un visage. C'est... Mon Dieu, une sorte de tentacule vient d'émerger de l'obscurité. En voici une autre, et d'autres encore. Et voici le corps de la créature, c'est monstrueux.
Et lors de la diffusion de ce feuilleton, il y a eu des mouvements de panique au Royaume-Uni, les gens croyant vraiment qu'il y avait une invasion extraterrestre, créant des mouvements de foule et des mouvements de panique pour essayer de fuir un petit peu cette invasion extraterrestre. La bande dessinée dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du coup l'adaptation de La Guerre des Mondes d'après H.G. Wells, et ça a été fait par Thilo, je suis pas sûr, Thilo Krapp, qui est publié aux éditions Jungle. L'histoire, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est l'histoire d'une invasion extraterrestre. Cette invasion, elle est suivie par un jeune homme de noble société qui va, comme beaucoup de ses compatriotes, fuir cette invasion extraterrestre. Au début, il est très curieux puisque cette invasion commence de manière assez, on va pas dire pacifique, mais c'est pas vraiment une invasion au départ. Il y a juste une espèce de chose qui est tombée dans un champ et qui devient très très vite en fait une curiosité. Et puis cette curiosité va se transformer en horreur lorsqu'une créature va en sortir et grâce à différents outils beaucoup plus sophistiqués que ce que nous avons, va commencer à décimer les villageois autour. Notre héros va parcourir une grande partie du Royaume-Uni en fuite et il va constater différentes choses. Il va se retrouver cloîtré dans une maison avec un autre personnage et constater toujours l'évolution de cette invasion, de ces créatures très différentes des humains et qui semblent ne vouloir que les exterminer. Jusqu'à un retournement de situation assez inattendu, puisque cette invasion subira une fin aussi abrupte qu'elle est arrivée. Je vous spoile pas, hein, si vous connaissez pas l'histoire, lisez-le, c'est vraiment très très bon. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper... je sais pas comment lire, c'était vraiment une histoire hyper intéressante et hyper originale pour l'époque. L'espace, c'était juste on découvre les étoiles, c'était pas tiens on va chercher s'il y a une nouvelle trace de vie là-bas. Et faire débarquer cette espèce de trace de vie sur Terre et qui crée un carnage sans nom, ça a été extrêmement novateur et extrêmement impactant pour la suite de la science-fiction toute nationalité confondue. L'ouvrage est plutôt la BD est plutôt fidèle, hein, selon mes souvenirs au roman. On est sur un trait qui est pas forcément hyper détaillé. On a un côté je pense qu'il a essayé l'auteur a essayé de retranscrire un trait pas trop détaillé pour coller un petit peu à l'imagerie qu'on pouvait avoir de l'époque, et ça rend franchement bien les machines des extraterrestres. Alors d'une description papier, chacun peut arriver à se faire sa description. Je vous laisserai chercher, hein, sur internet. Vous verrez que l'iconographie, elle est suffisamment détaillée et suffisamment étrange pour pouvoir être suffisamment variée en fait. Mais à chaque fois, on retrouve cette espèce de tube de créatures, enfin pas de cockpit hissé sur de grandes pattes avec des tentacules qui en sortent, et chaque auteur en fait s'est fait sa propre version de ces espèces de robots, de ces espèces de vaisseaux en fait qui vont semer la terreur. L'ouvrage est vraiment bien foutu. On suit beaucoup en fait le personnage, ça se lit de manière assez fluide, même si on a quand même pas mal de passages de texte imposants. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'on a peut-être des passages de texte qui sont des reprises complètes en fait des traductions françaises. Ce qui n'empêche pas d'avoir des passages où il y a très peu de texte, où on suit une action qui est plutôt fluide, et c'est vraiment agréable. Au niveau des couleurs, on n'est pas sur quelque chose de fantastique, on est quelque chose de très efficace. Il y a pas mal d'ambrage, il y a pas mal de choses, mais encore une fois, on est sur des couleurs qui je pense ont été travaillées pour rester dans l'esprit de l'époque et essayer d'avoir ce rendu un petit peu ancien, old school. Je sais pas comment l'expliquer en radio, mais ça marche vraiment bien. C'est plutôt agréable à découvrir et à lire. Donc moi je vous invite à découvrir non seulement ce roman, non seulement cette pièce radiophonique, puisqu'il y a une version, il suffit juste de se rendre sur YouTube, vous cherchez la Guerre des Mondes, vous aurez la version française du dernier feuilleton radiophonique, et puis surtout à lire cette bande dessinée par, on va dire, Silo Crap aux éditions Jungle. La Guerre des Mondes, d'après H.G. Wells, ça fait partie des bases, on va dire, des romans de science-fiction à découvrir. That's all, folks. Et oui, vous l'avez entendu, c'est Porky qui vient de sonner la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme j'ai passé un bon moment à vous préparer cette émission. Je vais laisser l'antenne dans quelques instants à mes collègues du Gros Bazar qui vont sans doute vous en faire voir des vertes et des pas mûres, hein, comme à leur habitude. Je remercie encore Anne-Lee pour son intervention dans l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver dans quelques instants sur le podcast de l'émission sur le www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-moi vos lectures ou éventuellement vos envies. Si vous voulez venir participer à l'émission, sachez que c'est toujours possible de vous faire enfermer dans les studios comme Anne-Lee et de me faire partager une de vos lectures que je passerai à l'antenne. J'espère que ça peut vous motiver, ça peut vous plaire. Juste après le générique, il y aura un petit peu de musique avec Bulmé Buttercup en lo-fi, un truc un petit peu doux pour faire la transition avec les énergumènes du Gros Bazar. On se retrouve pour de nouvelles lectures dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Eh ben, vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.
Every time you walk by, just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and put a starlight in your eyes so blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to...
Radio G, 101.5 FM.
Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde.